France Inter, franceinter.com.
Bir Hakeim est la preuve que les Français sont, après nous, les meilleurs soldats d'Europe. Adolf Hitler. Mille ans d'histoire. Ils étaient 3500 venus de tous les coins de l'Empire français, des Africains, des Tahitiens, des Néo-Calédoniens, des Guyanais, des Cambodgiens, des Malgaches, des Libanais, des Antillais, mais aussi des légionnaires allemands anti-nazis et des Français de métropole qui avaient rejoint le général de Gaulle en 1940. En 1942, dans la première brigade de la France libre, sous les ordres du général Koenig, ils étaient à Bir Hakeim, un camp retranché, perdu quelque part au milieu du désert libyen, à l'extrémité sud d'un front de 200 km de long. C'est là que le 26 mai 1942, sur les ordres de Hitler, l'Afrika Korps de Rommel lançait une gigantesque offensive. Son objectif, l'Égypte, le canal de Suez et au-delà, les champs de pétrole du Proche-Orient. Rommel n'y arrivera jamais. Arrêté par la 8e armée du général britannique Ritchie, il avait été bloqué pendant 14 jours à Bir Hakeim par les hommes de Koenig, les premiers Français à avoir affronté les Allemands depuis la défaite de 1940, ces 3500 soldats des forces françaises libres auxquels André Malraux rendait un hommage solennel 16 ans plus tard, en 1958.
Et voici les visages des survivants sur lesquels le temps a passé. Illustres ou inconnus, ils sont unis aujourd'hui par le même grand souvenir qui s'efface. Des FFL, c'était le sentiment retrouvé lorsque la France avait appris que la poignée d'hommes du général Koenig, désespérément chargée de tenir 10 jours contre 2 divisions, en avait tenu 14 et avait rompu l'encerclement de Rommel. Ces combattants étaient le nom du 18 juin devenu vivant. Nullement une sorte de légion française aux côtés des alliés, mais l'éternelle poignée de ceux par lesquels tout ce qui dépasse les individus commence ou recommence, la légion des témoins. Les témoins de la continuité nationale, ceux qui proclamaient que même si la France n'était plus en France, même si elle n'était plus que dans le désert d'Afrique, elle restait vivante, parce que dans ce désert, le monde y reconnaissait son image.
François Broche, bonjour.
Bonjour.
Alors, parmi les Français libres auxquels André Malraux rendait ce très bel hommage que l'on vient d'entendre en 1958, il y avait votre père, Félix Broche, qui a été tué à Bir Hakeim le 9 juin 1942, pendant une bataille qu'on a un peu oubliée aujourd'hui et dont vous rappelez l'importance dans un livre publié chez Perrin, Bir Hakeim qui se trouve en Libye et sur un fond très importante, sur un front très important de la Deuxième Guerre mondiale, François Broche, il faut le rappeler.
Oui, c'est le front libyen où, en fait, les hostilités avaient démarré dès l'automne 1940. Il était important, ce qui faisait partie, qui était au centre de ce qu'on appelait ensuite la bataille de la Méditerranée, et qui était un front important, quoique méconnu, comme vous dites, mais qui était destiné à permettre à Hitler de prendre le contrôle du canal de Suez, et au-delà donc des champs pétrolifères. Ce qui explique que dès l'automne 1940, les combats, la Libye était un territoire italien, sous mandat italien, donc l'armée italienne était présente, et les premiers combats entre les troupes anglaises qui étaient en Égypte et les troupes italiennes de Libye ont eu lieu très vite.
Alors c'est un désastre pour les Italiens qui perdent une bonne partie de la Libye dont s'emparent les Britanniques. Et c'est la raison pour laquelle Hitler envoie des renforts aux hommes de Mussolini, un des meilleurs généraux allemands, Erwin Rommel, avec l'Afrika Korps, qui arrive donc en Libye en février 41. Et Rommel qui a un projet extrêmement ambitieux. Il veut contre-attaquer, mais le projet qu'il a en lançant une grande offensive à partir des territoires perdus par les Italiens, eh bien, il va très au-delà de Bir Hakeim et même de l'Égypte.
Enfin, c'est du moins son intention.
Oui.
Mais évidemment, il sera...
Non, c'est le projet, oui.
C'est le projet. Il sera arrêté en chemin par les troupes alliées. Je précise que dès l'automne 1940, déjà des Français sont déjà engagés, des Français venus de Chypre, le bataillon d'infanterie de marine, sont déjà engagés aux côtés des Anglais, de façon certes symbolique, mais dès le mois de décembre 1940, il réalise donc le vœu du général de Gaulle d'être présent sur tous les terrains de combat, tous les champs de bataille, tout de suite, sans attendre. Et au début de 1941, au moment où le désastre italien est à peu près consommé en Libye, où les Anglais ont édifié une ligne de défense destinée justement à prévenir toute attaque venue du nord, les Allemands possèdent tout le nord de la Méditerranée, de la Yougoslavie, de la Grèce. Donc l'attaque de Rommel va se heurter tout de même à une résistance durant toute l'année 41, une résistance des Anglais qui organisée depuis Tobrouk. Et puis, au début de 1942, le vent va tourner au détriment des Anglais. Et c'est à ce moment-là, les attaques allemandes vont réussir à enlever Tobrouk. Rommel progresse de façon très importante vers l'Égypte, et c'est à ce moment-là qu'il conçoit cette offensive d'envergure qui va être déclenchée le 26 mai et qui est destinée à percer la ligne de défense qui s'étend entre Tobrouk et un petit poste tout à fait dans le sud du désert qui s'appelle Bir Hakeim, dont personne n'a jamais entendu parler.
An der Schwelle Nordafrikas. Verstärkung für die Panzerarmee des Generaloberst Rommel.
Qui a été décoré par le Führer des feuilles de chêne avec glaive à la croix de chevalier de la croix de fer pour sa victoire remportée au cours d'opérations défensives contre un ennemi bien supérieur, a repris l'offensive. Les chars d'assaut s'avancent au combat. Comme l'a annoncé le communiqué des forces allemandes, des formations allemandes et italiennes ont subitement attaqué dans la Cyrénaïque les forces britanniques concentrées et les ont rejetées au-delà d'Adjedabia en direction du nord-est.
Et là, on entend le chant de l'Afrika Korps de Rommel, qui au printemps 42 donc attaque en Libye. Il a en face de lui la 8e armée britannique du général Ritchie, dans laquelle donc sont incorporés ces Français libres dont on va parler avec vous, François Broche, la première brigade française libre du général Koenig, 3500 hommes, alors qu'ils venaient, je l'ai dit, de partout, du monde entier.
C'était... je crois que c'est Hitler qui aura cette expression lorsqu'il entendra parler de l'exploit des Français libres à Bir Hakeim. Cette armée est un sauvage mélange de races. Et je crois que dans sa logique, il avait entièrement raison, parce que les hommes de la brigade Koenig, il y en avait 3723 exactement, venaient en effet de tous les horizons de l'Empire. Il y avait des Noirs de toutes les origines, de tous les pays d'Afrique noire. Il y avait bien entendu des Tahitiens et des Calédoniens que commandait mon père. Il y avait des gens
La brigade du Pacifique.
Le bataillon du Pacifique, voilà. Il y avait beaucoup de gens du Levant, des Libanais, des Syriens. Il y avait même des Juifs de Palestine. Ce qui avait permis d'ailleurs à la propagande nazie de parler d'un bataillon juif qui n'a jamais existé. Il y avait des gens des Nord-Africains. Il y avait également, comme vous l'avez dit, des légionnaires qui étaient allemands et italiens, et qui, évidemment, s'ils étaient tombés entre les mains de leurs anciens compatriotes, auraient eu un sort qui était signé d'avance.
Ah, il faut rappeler aussi des Français de métropole qui avaient rejoint De Gaulle dès 1940. Parmi eux, il y en a un qui est devenu célèbre plus tard, mais qui n'était que capitaine de la Légion, et qui était Pierre Messmer, François Broche.
Il y avait Pierre Messmer, je pensais que vous alliez parler de Koenig, qui était également capitaine en 1940, qui avait fait la campagne de Norvège, qui prendra plus tard le commandement de la brigade. Et il y avait Pierre Messmer, qui effectivement est un des plus glorieux, des plus héroïques combattants de Bir Hakeim, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup parlé de cette bataille. Et je donne à mon livre, d'ailleurs, en sous-titre, une de ses expressions, qui est « La bataille qui réveilla les Français ».
Il y a aussi le général Simon qui a été ensuite grand chancelier.
Il y a eu toute une pléiade de grands chefs, Laurent Champrosé, Amiot-Dainville, le général Saint-Hilier, le général Simon. Enfin, cette bataille a révélé toute une... Pléiade de grands chefs.
Alors à Bir Hakeim qui est un camp retranché de 14 km², mais qui n'est pas un fort. Hein. C'est même pas un village.
Bir Hakeim, c'est un coin de désert, c'est un carrefour de pistes à 80 km au sud de Tobrouk, avec les restes d'un fortin italien, mais très ancien, une petite muraille, des pierres, avec deux restes de citernes qu'on appelle les mamelles. Et puis, voilà, une très faible dénivellation de terrain, une végétation très pauvre, ce n'est rien sur le plan militaire, c'est absolument indéfendable.
Pas de muraille, mais alors une muraille enterrée, si je puis dire, parce que lorsqu'ils s'y sont installés, les Français, la première BFL, a mis 120 000 mines, je crois, autour de... C'était ça la vraie muraille, la vraie défense de Bir Hakeim, François Broche, et on va voir que ça joue un rôle énorme.
Voilà, alors là, il faut bien dire que, comme me le disait d'ailleurs le général Koenig, que j'ai assez bien connu, toute la gloire de Bir Hakeim, j'ai eu toute la gloire de Bir Hakeim, mais cette gloire aurait dû revenir au général de l'Armina. Parce que c'est l'Armina, en réalité, avec le commandant Gravier, qui était le patron des sapeurs des mineurs, c'est l'Armina qui a conçu la position défensive de Bir Hakeim, et notamment ce très subtil système de marais et de champs de mines. Mais l'Armina, comme disait Koenig, non sans malice, rêvait de grands commandements, et il pensait que dans cet endroit, il ne se passerait jamais rien. Donc Koenig, son adjoint, a hérité du commandement, et comme il héritera de la gloire plus tard.
Il y a autre chose qui a beaucoup compté, c'est le fait que Koenig a demandé à ses hommes de creuser des trous individuels qui les protégeront, on le verra, des bombardements et de l'artillerie adverse. C'est-à-dire qu'en face d'eux, il y a les Allemands. C'est la première fois que l'on voit des Français, en tout cas dans un grand engagement, face à des Allemands. On n'a jamais vu ça depuis 1940, François Broche.
Non, on a vu déjà des Français contre des Français.
En Syrie,
à Dakar et surtout en Syrie au printemps 1941. On a vu des Français contre des Italiens en Érythrée. Mais c'est la première fois que des Français se battent vraiment contre l'adversaire principal, c'est-à-dire l'Allemagne.
Et Rommel, d'ailleurs, qui était dans la campagne de France en 40.
Et Rommel, qui était le plus prestigieux général allemand de l'époque. Et je voudrais revenir un instant sur la défense de Bir Hakeim. Koenig était un ancien de la Grande Guerre et il savait toute la valeur de la tranchée, de la position enterrée. Et il a fait, dès le mois de février, nous sommes d'ailleurs à quelques jours de l'anniversaire de l'installation des Français à Bir Hakeim, le 15 février 1942, il a fait tout de suite creuser des trous individuels à ses hommes et ça n'a pas été sans mal.
La mission de Koenig, dont la première brigade française libre est incorporée à la 8e armée, la mission que lui donnent les Britanniques, ce n'est pas d'empêcher les Allemands d'entrer à Bir Hakeim, c'est de les retenir le plus longtemps possible. C'est une bataille défensive qu'ils mènent.
C'est une bataille défensive, absolument. Les Britanniques demandent aux Français de tenir quelques jours, le temps de mettre l'Afrika Korps à la raison au nord de la position vers Tobrouk. Mais malheureusement pour les Britanniques, les choses ne vont pas se passer comme ça. Ils vont au contraire être bousculés par l'Afrika Korps au nord, et d'où la valeur que va prendre du même coup la position, le môle sud de la position qui était Bir Hakeim.
Lorsque Bir Hakeim est donc attaqué à partir du 26 mai 1942, écoutez deux témoins de Bir Hakeim, le français donc Pierre Messmer et puis un soldat allemand de l'Afrika Korps, Heinz Rupert, qui m'avait raconté il y a quelques années comment s'était passé ce premier jour de cette offensive germano-italienne. Heinz Rupert.
Le 26 mai, c'était évidemment, Bir Hakeim était un angle très important pour continuer après vers El Alamein. Nous avons ouvert une brèche dans les champs ou les marais de mines et nous sommes allés, les premiers, avec Rommel lui-même à la tête, pousser dans cette brèche en avant de la ligne de Gazala. Et c'était assez difficile parce que à cause des mines. Et les Français étaient très, surtout les légionnaires, ont très bien placé les mines.
Nous avons vu ces chars italiens, au début à peu près 80 chars, qui se sont précipités comme une charge de cavalerie en direction de Bir Hakeim, en nous attaquant dans la partie est de Bir Hakeim.
Pierre Messmer.
80 chars italiens sont précipités à toute vitesse, je dois dire, c'était très beau à voir, et ils sont précipités dans un champ de mines, ils ont sauté sur les champs de mines. Il y a tout de même quelques chars italiens qui ont réussi à traverser les champs de mines, et il y en a deux ou trois qui ont pénétré dans la position où ils ont été, d'ailleurs, exécutés par les canons anti-chars.
Et c'était Pierre Messmer racontant ce premier jour de l'attaque germano-italienne sur Bir Hakeim, un désastre pour les Italiens, François Boros.
Oui, on peut dire que dès le premier jour, la bataille est un peu jouée. On s'est tenté de dire, en forçant naturellement un peu les choses, les événements, qu'elle est tentée de jouer parce que les Italiens de la division Ariete, qui est une très bonne division italienne, division blindée, se heurtent à une résistance tout à fait inattendue. Un colonel de cette division, le colonel Presti Simone, sera capturé le même jour et il confiera à Koenig que son étonnement de voir cette résistance parce qu'il avait reçu mission d'enlever la position en un quart d'heure. C'est dire le peu d'estime que le commandement allemand avait à l'égard de ces Français libres.
Et ils tiendront 14 jours, hein, c'est quand même extraordinaire.
Ils vont tenir 14
jours. Et alors
jours.
Non seulement, en vous lisant, c'est surprenant, non seulement ils sont sur la défensive, mais ils lancent même des raids à l'extérieur en direction des lignes allemandes, en traversant, parce qu'ils les connaissent bien sûr, ils connaissent les passages, en traversant les rideaux de mine. Ce qu'on appelle les jog colonnes.
Voilà, les jog colonnes, en réalité, ce sont des petites unités comprenant plusieurs armes qui ont été employées dans les trois mois qui ont précédé la position. C'était, il faut bien voir que cette guerre du désert ressemblait à une guerre de course. On se faisait la course sans arrêt. Les jog colonnes allaient à droite, à gauche, enfin sillonnaient le désert. Il y avait de très brefs et très violentes empoignades avec les troupes allemandes. Mais ensuite, même après le début du siège, le 26 mai, des patrouilles sont sorties et il y a eu des affrontements autour de la position. Il y avait même des convois de ravitaillement qui parvenaient à percer les lignes allemandes.
Alors Rommel est absolument furieux. Il va d'ailleurs bientôt prendre le commandement lui-même des opérations parce qu'il est occupé au nord aussi, à Tobruk. Mais il va prendre le commandement. Il lance des bombardements extrêmement violents, hein, des Stuka en piqué qui bombardent des positions françaises, mais sans trop de dommages parce que les Français sont enterrés dans ces trous,
voilà,
individuels. Justement.
Les trous permettent effectivement de faire beaucoup d'économies d'hommes. La bombe n'est efficace que lorsqu'elle tombe sur le trou. Pierre Messmer prenait grand soin de rappeler que Bir Hakeim n'était pas seulement une bataille terrestre, mais une bataille aérienne. Et en effet, la Royal Air Force et la Luftwaffe se sont souvent affrontées au-dessus de Bir Hakeim. On jouait un rôle assez important.
Et alors, ils vont résister pendant très longtemps. Rommel va envoyer lui-même trois demandes demandes aux défenseurs à Koenig de se rendre. À trois reprises, Koenig refuse. Et puis, donc, les Français vont tenir bon, comme ça, jusqu'au 9 mai. À ce moment-là, Koenig reçoit du commandement anglais le message suivant, c'est la position de Bir Hakeim n'est plus considérée comme essentielle.
Vous dites que Rommel demande à Koenig de se rendre. C'est pas tout à fait exact. Il commence par demander à Koenig de se rendre. Et puis ensuite, et ce qui rendra absolument furieux Koenig, il adresse un dernier ultimatum aux troupes de Bir Hakeim. Et Koenig le lui reprochera. Il le lui reprochait jusqu'au bout. Il lui reprochait ce manque de courtoisie entre généraux. C'est au général qui commande la troupe qu'on adresse un ultimatum et pas à ses hommes en passant
D'accord.
par le...
D'accord, c'est lui.
Mais effectivement, bon, ces ultimatums sont repoussés avec beaucoup de flegme et de sérénité.
Il répond même pas, Koenig, au deuxième ou au troisième. Il répond même pas. Mais alors, lorsque, après avoir tenu pendant 14 jours, il reçoit, on lui demande, le commandement anglais lui dit, maintenant vous pouvez quand même penser à évacuer. Là, c'est la partie la plus difficile de la bataille. Pourquoi ? Parce que pour sortir de Bir Hakeim, François Broche, vous le rappelez, il faut traverser les rideaux de mine, il faut traverser les lignes allemandes. Et là, c'est ce qui a été peut-être le plus difficile pour les défenseurs de Bir Hakeim.
Il faut sortir par l'ouest de la position, c'est-à-dire aller à la rencontre des troupes allemandes, à un point de rendez-vous qui a été fixé par le commandement britannique. Et il faut, surtout pour sortir, il y a un énorme problème, c'est que le passage dans le champ de mine doit être suffisamment large pour permettre, dans un temps record, à l'ensemble de la brigade, c'est-à-dire à plus de 3 500 hommes, de sortir. Donc Koenig demande au commandant Gravier, le chef des sapeurs, de faire un passage de 200 mètres de long. Et les événements sont tels que Gravier n'aura pas le temps de faire ce passage, qui en fait, je crois, sera d'une largeur de 57 mètres au maximum. Donc, ce qui explique qu'il va y avoir beaucoup de casse pendant la sortie.
Et puis, effectivement, il faut passer à travers les lignes allemandes. Alors, le lendemain, ça s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai, du 10 au 11 juin, pardon. Le lendemain, les Allemands donc peuvent s'emparer du camp de Bir Hakeim, ce que Radio Paris et son chroniqueur, le collaborateur Philippe Henriot, présentent comme une victoire allemande et une trahison des Anglais.
L'attaque brusquée des forces germano-italiennes a transformé la situation en Afrique du Nord. Le général Rommel, devenu depuis maréchal, a lancé soudain une offensive de grand style en enlevant Bir Hakeim, pilier sud du système défensif britannique.
L'expression « filer à l'anglaise » prend toute sa valeur. Pour ce qui concerne Dunkerque, les gens bien intentionnés ou les anglophiles peuvent prétexter que les Britanniques désiraient rentrer chez eux pour mettre leur pays en état de défense. Mais à Bir Hakeim, ils sont partis comme des voleurs, mais aussi comme des criminels. Ils ont visé les réservoirs des automobiles, empêchant ainsi les colis de s'échapper. Voilà comment l'Angleterre traite les imbéciles qui se mettent à sa solde. Bonsoir, mes chers amis, et à demain.
Et c'était la façon dont la radio de la collaboration en France, et donc oui. Philippe Henriot, qui en était vraiment le porte-parole, parlait de Bir Hakeim. C'est extraordinaire, quand même, une réaction, François Broche.
Oui, bon, c'est une virulence qui était habituelle aux propagandistes de Vichy.
D'autant que les Anglais n'ont jamais abandonné les Français, bien sûr.
Absolument pas, au contraire, ils les ont recueillis à leur sortie. Mais c'est bon, c'est une façon de voir qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. En tout cas, le pauvre Philippe Henriot a dû être très déçu parce que très vite, à l'intérieur de en France occupée, la réputation de Bir Hakeim a été très grande, même dans certains milieux vichistes où l'on a... Dans certains milieux vichistes où l'on préparait la revanche, notamment dans les milieux militaires, on n'a finalement pas été trop mécontent que des Français tiennent tête aux Allemands. Et bien évidemment, dans la résistance, dans les premiers maquis, qui sait ce qu'il sait déjà, le nom de Bir Hakeim a servi de référence à énormément de maquis.
Il faut qu'il y ait un maquis qui s'est appelé à Bir Hakeim.
Plusieurs maquis, enfin, dont un plus particulièrement connu, des journaux de la résistance. Et dans le monde entier, la réputation de Bir Hakeim a été grande.
On y reviendra. Cela dit, le bilan est très lourd de cette défense de 14 jours de Bir Hakeim. Il y a combien sur les 3500 hommes de Koenig, combien ont disparu? Je dis disparu. Écoutez, parce que ça peut être des blessés, c'était des prisonniers, c'était aussi des gens.
Le bilan finalement n'est pas si lourd que ça, eu égard à 3500 hommes ou 3700 hommes qui ont été engagés. Il est très difficile d'établir des statistiques vraiment fiables. On parle généralement, l'accord se fait généralement sur un chiffre global de tués, blessés ou disparus de 1500.
C'est 1500
tués, blessés ou disparus. Oui. Mais en réalité, les tués, et ça je me fie à une comptabilité qui avait été établie par Pierre Messmer, il y avait eu pendant le siège 99 tués, et pendant la sortie, je crois que Messmer parlait de 72 tués. Cela dit, le cimetière français de Bir Hakeim, où je me suis rendu il y a quelques années, comporte 193 tombes, dont 35 qui enferment des dépouilles de soldats qui n'ont pas été identifiés. Donc, le gros problème, en fait, l'énigme de cette comptabilité porte sur le nombre des disparus.
Oui, ils sont perdus dans le désert.
Il reste plus de 700 disparus. On en a retrouvé certains. D'autres ont été, malheureusement pour eux, embarqués à bord d'un navire italien qui a été, il y en avait 140 à peu près, qui a été mitraillé par l'aviation anglaise en Méditerranée. Donc, beaucoup ont disparu. En Méditerranée.
En quoi est-ce que, François Broche, en quoi est-ce que cette bataille de Bir Hakeim est un succès? C'est pas une victoire, puisque les Allemands ont fini par prendre cette position au bout de 14 jours. Mais c'est pourquoi est-ce que ça a été interprété, considéré comme un succès des forces françaises?
C'est un succès parce que Rommel, qui était victorieux au nord, a été considérablement... bloqué, affaibli par la résistance française de Bir Hakeim. Il a perdu beaucoup de temps, il a usé beaucoup d'énergie et il a permis en même temps, ce qui montre que Rommel, qui était un brillant tacticien, était un stratège assez médiocre finalement, il a permis en même temps aux Anglais de se refaire. Et il a permis aux Anglais de retraiter en bon ordre vers l'Égypte et de l'attendre avec de nouvelles divisions, de nouveaux renforts qui en 15 jours ont eu le temps d'arriver. Donc si... Rommel avait, conformément à son style et à sa nature, avait poursuivi sa marche vers l'Égypte en laissant derrière lui Bir Hakeim, qui qui n'avait pas finalement un grand intérêt stratégique, qui n'était même pas un poignard dans son dos.
C'est une question d'amour propre en fait pour lui.
C'était un peu une question d'amour propre, oui, qui montrait bien que les limites de ce général.
Et énorme bêtise d'ailleurs, puisque les Anglais se replient à El Alamein, à partir de là, ils pourront reprendre l'offensive, ce sera la grande offensive d'El Alamein un peu plus tard. D'une certaine manière, ça a joué un rôle considérable, vous le rappelez. Alors, en tout cas, c'est considéré évidemment comme un succès des forces françaises libres du général de Gaulle, qui de Londres ne cache ni son émotion, ni sa fierté, le 11 juin 1942.
La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'ont fait ces soldats à Birakeim, braves et purs enfants de France, qui viennent d'écrire avec leur sang une de ses plus belles pages de gloire. Oui, c'est par le combat, dans le combat, pour le combat, que se refait l'unité française. L'ennemi connaîtra son erreur, les cadavres allemands et italiens qui jonchent en ce moment les abords des positions de Koenig peuvent lui faire présager de combien de larmes et de combien de sang la France lui fera payer ses outrages.
De la France dans le soleil d'Afrique, sauvant le drapeau, un moment tombé, les croisés du désert au cœur stoïque, aux bras invaincus, n'ont pas succombé. Ibrahim, épopée et de titans, et vers la gloire s'élevant jusqu'au temple, sous le regard du monde qui contemple, ces héros incarnèrent l'armée d'antan.
Et l'hymne à la gloire des héros de Bir Hakeim, une chanson donc à la gloire de ces héros, c'était une chanson de 1950. Bir Hakeim dont la bataille a marqué, une bataille qui a marqué un tournant dans l'histoire de la France libre, vous le rappelez. D'abord, ça légitime bien entendu l'action du général de Gaulle, puisque ces hommes qui se sont battus à Bir Hakeim, c'était des gaullistes.
Oui, je rappellerai le passage des mémoires de guerre où de Gaulle, apprenant la nouvelle de l'heureuse issue de la bataille de Bir Hakeim, congédie le messager, s'enferme dans son bureau et pleure de joie. C'est la première fois qu'il se laisse aller à ce mouvement, non pas de faiblesse, mais d'une émotion extrême, parce qu'il voit tout de suite que cette bataille va enfin permettre à la France d'être considérée par les Alliés comme un allié à part entière.
Oui, c'est connu dans le monde entier, on raconte même
que la réputation est même un peu excessive par rapport à la véritable importance sur le terrain de la bataille. El Alamein est une bataille beaucoup plus importante pour les effectifs engagés. Mais le symbole est tellement fort que de Gaulle, effectivement, fait une espèce de tremplin pour rebondir à ce moment-là.
Et puis, vis-à-vis des Français de France occupée, car ça va l'aider, bien sûr, au moment précis où il rassemble la résistance avec Jean Moulin derrière lui.
Il rassemble la résistance au sein de la France combattante. La France libre s'efface au profit d'une nouvelle entité qui s'appelle la France combattante et qui rassemble les forces françaises libres de l'extérieur et la résistance intérieure. Et de Gaulle en est le chef suprême.
Merci François Broche de nous avoir rappelé donc cet épisode important pour la France libre, important pour la France, important pour les alliés, qui a été la bataille de Bir Hakeim. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, donc Bir Hakeim, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Et puis toujours chez Perrin également, La France au combat, de l'appel du 18 juin à la victoire, que vous avez écrit avec Georges Caetucoli et Jean-François Muracciol. À lire aussi une histoire, mais ce qui est sans rapport direct avec Bir Hakeim, une histoire des anti-gaullistes, publiée chez Bartilla et dont vous viendrez nous parler bientôt, dans quelques jours, dans 2000 ans d'histoire. À lire aussi sous la forme d'un dictionnaire, Les militaires qui ont changé la France, sous la direction de Fabrice Fanet et Jean-Christophe Romer, édité aux éditions du Cherche Midi, où il est question du général maréchal, même Koenig. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet et Loïc Frapsos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Kobilac. 2000 ans d'histoire. Demain, dans notre émission, nos ancêtres, les Gaulois.